deuxième et dernier temps de notre série consacrée à l'histoire de la bande dessinée. Aujourd'hui, le débat, comment histoire et bande dessinée cohabitent-ils est-elles et s'enrichissent-ils est-elles mutuellement ? Cette dernière émission de notre série sur la bande dessinée, nous nous intéressons donc au rapport changeant qu'elle entretient avec l'histoire. Apprend-on l'histoire dans les bandes dessinées historiques ? À quoi servent-elles ? Ne devrait-on pas reconsidérer les rapports entre ces deux modes de récit du passé ? Comment les dessinateurs et les historiens pourraient-ils collaborer différemment ? C'est ce que nous verrons en compagnie de Victor Massé de l'Épinay qui a préparé cette semaine avec nous et de nos trois invités. Adrien Genoudet, il est enseignant à Sciences Po, il est à terre au Collège de France. Philippe Delisle, professeur des universités à l'université Lyon 3. Il est fondateur et directeur de la collection Esprit BD chez Cartala. Et Pauline Ducré, elle est doctorante à l'université de Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, organisatrice, c'était tout récemment en septembre, de la journée d'études de la bande dessinée historique objet d'histoire et auteur au magazine Case d'Histoire. Mais auparavant, comme chaque jeudi, désormais, vous le savez peut-être, nous vous proposons un nouvel épisode de notre feuilleton La Fabrique de l'Histoire à l'école, au collège, au lycée, préparé par Séverine Yattard et Véronique Samouilov.
Charlemagne, fils de Pépère le Bref, 1668-814, les rois fainéants et les maires d'Austrasie.
Les dates, le Saint-Empire, oh, tout est prévu.
Je parle à des gens qui font semblant de m'écouter, semblant de me regarder. Je suis là, vous me voyez ?
Les dates, le Saint-Empire, oh, tout est prévu !
Est-ce que vous me voyez ?
La fabrique de l'histoire scolaire.
Vous m'écoutez, s'il vous plaît ?
Faut pas que ce soit un cours. L'histoire, il faut pas l'apprendre, il faut la comprendre.
Je vais interroger quelqu'un sur la leçon qu'il y avait à apprendre pour aujourd'hui.
Aux ateliers pédagogiques organisés par les rendez-vous de Blois, Élie Stokwoka, chef du département de la médiation des publics à l'ECPAD, présente à un public d'enseignants des archives audiovisuelles de la guerre d'Algérie.
Donc, ce film Képi Bleu dont je vous parlais est donc un film réalisé sur les SAS, les officiers SAS, et vous allez voir ce que je vous disais sur les moyens qui sont mis à disposition ainsi que sur le discours qui est tenu dès les trois premières minutes. On sent très bien quelle est la tonalité du film.
Des jardins d'enfants, des écoles, jusque dans la montagne, du travail pour les hommes, des usines, des routes modernes.
Alors nous sommes aux ateliers pédagogiques des rendez-vous de Blois, et donc vous êtes un enseignant ?
Oui, alors je suis Benjamin Delcourt, je suis professeur d'histoire-géographie à la fois en lycée et à la fois en collège, et voilà, je viens au rendez-vous de l'histoire, c'est un rendez-vous incontournable pour nous chaque année, et il est vrai que ce genre d'intervention, c'est important pour nous, à la fois pour rencontrer des professionnels, à la fois pour avoir une autre approche pédagogique, et notamment aujourd'hui ce qui s'est passé par rapport à la guerre d'Algérie, comment est-ce qu'on peut se servir d'images, d'archives avec nos élèves, et surtout comment est-ce qu'on peut avoir une approche plus pédagogique en termes de regard critique sur ces images, et montrer que l'image a un sens précis.
Là, on a assisté à une conférence donc sur les archives de l'armée en fait hein, pendant la guerre d'Algérie.
Soudain, répondant à un signal mystérieux, des fanatiques ambitieux pensent pouvoir détruire la civilisation occidentale, rien de moins, en incendiant des écoles, en brûlant des fermes, des autocars, en tuant. Ce fermier européen, ce musulman, son voisin, tous deux égorgés, arrosent de leur sang la terre qu'ils ont défrichée ensemble.
Alors, c'est le seul moment du film où il va vraiment y avoir plus qu'une évocation à la violence qui est en Algérie. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer d'autres extraits de films, donc qui sont ceux qu'on utilise en classe, pour le coup, avec les élèves. Alors là, on est sur un film réalisé au tout début du conflit qui s'appelle « Colomb et Char, la porte du ciel ». Donc je vais vous demander de bien écouter ce qui est dit, bien écouter le commentaire, parce que c'est très intéressant de voir comment l'Algérie est présentée en 1954.
Je venais pour la première fois de survoler le Sahara, et voici que sans transition, les palmiers et les constructions cubiques de Colombéchard défilaient sous le gros ventre du Breguet de Pont, comme dans un travelling de cinéma. Sur une piste à demi recouverte de sable, le pilote d'Air France réussit à poser son énorme avion en douceur. Et je pensais qu'après tout, avec de pareils engins, Colombéchard, ce n'est pas le bout du monde, si ce n'est pas encore la grande banlieue de Paris. Quelques camarades étaient venus me chercher au terrain, et sans que j'aie eu seulement le temps de souffler, en route pour le PC du colonel.
Et vous êtes enseignante aussi ?
Oui, j'étais enseignante d'histoire, je suis Aïda Karkash, j'étais enseignante d'histoire et de géographie, et maintenant je suis chargée d'études à l'éducation aux valeurs de la République à l'IFE. Et donc je vais proposer des formations en lien avec les valeurs de la République, et du coup je pense que je viens cette année à Bordeaux pour avoir des sources et voir comment on peut utiliser les ressources audiovisuelles. Et là le travail critique, il est beaucoup plus présent en lien notamment avec les archives de l'armée, donc c'est très très intéressant. Il y a beaucoup d'expositions qui sont proposées par par l'armée et la défense sur la guerre d'Algérie, donc c'est intéressant de voir le regard, le changement de regard, notamment sur les productions de l'armée entre hier et aujourd'hui. Donc c'est à la fois un travail d'historien, mais aussi de citoyenneté, d'éducation à la citoyenneté. À savoir, c'est une manière de les initier à une réflexion sur les images, la production des images, aussi bien à l'époque de la guerre d'Algérie, mais encore aujourd'hui.
Voilà donc pour ce nouvel épisode de ce nouveau feuilleton, tous les jeudis, en ouverture de la Fabrique de l'Histoire. Séverine Liattard et Véronique Saint-Louis-Neuf nous proposent un feuilleton donc sur la façon dont on enseigne l'histoire aujourd'hui dans les classes. Et pour dépasser peut-être les visions qu'on en a quand on regarde cela de loin, on rentre dans les classes, on va discuter avec les professeurs et avec les élèves sur la façon dont est enseignée l'histoire en France. Bonjour Victor Massé de l'Épinay.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour à vous Adrien Genoudet.
Bonjour.
Et bonjour à vous, Philippe Delisle.
Bonjour.
Ainsi qu'à notre troisième invité, à savoir Pauline Ducret. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on vient d'entendre Élise Tukuoka dans cette production. Donc, elle travaille à la CPAD. Elle dit aux professeurs que, eh bien, il faut s'interroger sur les productions des images pendant la guerre d'Algérie et jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine façon. Eh bien, la bande dessinée participe aussi à la façon dont on a raconté, dont on continue à raconter encore la guerre d'Algérie. On sait que vient de sortir au Seuil une histoire dessinée de la guerre d'Algérie, signée Benjamin Stora et Sébastien Vassan, mais il y avait auparavant Ferrandez, Lax et bien d'autres. Adrien Genoudet.
Oui, je crois que c'est intéressant même d'avoir entendu la dernière phrase là de ce reportage. On a entendu également l'idée de changement de regard, l'idée qu'il fallait à un moment donné passer outre en fait la question du rapport entre l'image et du rapport à l'historien. Et c'est intéressant en effet de voir que de plus en plus il y a ce type de croisement même de noms, c'est-à-dire entre des historiens et des dessinateurs qui commencent à s'allier de plus en plus pour justement poser des questions sur ce rapport au visuel à des époques précises. Et là, évidemment, l'Algérie est de plus en plus investie dans cette question-là, tout à fait.
Oui, on sait que va commencer l'année prochaine, en coproduction entre les éditions La Découverte et La Revue Dessinée, un travail justement où des historiens travailleront avec des dessinateurs pour faire une histoire dessinée de la France. Ça sera à partir de septembre 2017. Et Sylvain Venner, que nous avions à notre micro il y a très peu de temps, travaillera avec Étienne Davodeau, dont on a déjà parlé dans cette émission, ou encore Jean-Louis Bruno avec le dessinateur Nicobi. Philippe Delisle, on est très très loin d'une autre manière de raconter la guerre d'Algérie pendant la guerre d'Algérie elle-même par les dessinateurs de bandes dessinées.
Oui, dans les années 40-50, la bande dessinée franco-belge finalement fait un peu écho à ces bandes d'actualité qu'on trouve et pourrait être aussi des témoignages à analyser avec des élèves, où on a fréquemment dans des récits historiques ou d'aventure la figure du pillard mort qui est voleur par nature et que le courageux maire français combat. Et par exemple, en 1959, les éditions Dupuis publient dans Spirou une vie de Charles de Foucault. Spirou étant aussi, bien sûr, vendu en France, l'éditeur ajoute un bandeau dans lequel on voit un Touareg serrer la main à Foucault et le Touareg dire « Les Français sont nos frères, nous resterons avec eux jusqu'à la mort » pour bien montrer qu'effectivement on peut aborder ce sujet mais qu'on se gardera bien de mettre en cause la présence française.
Et Pauline Ducret, ces questions de guerre sont souvent effectivement une occasion, vous êtes vous-même doctorante en histoire ancienne, de montrer aussi l'action, parce que la guerre c'est aussi de l'action, que ce soit des guerres plus anciennes ou des guerres plus récentes, et donc de mettre en scène l'action des hommes pendant des actions guerrières.
Oui, on voit de plus en plus que... Enfin, on voit que souvent les bandes dessinées, où je pense aussi à des mangas, il y a un très bon manga qui s'appelle Ad Astra sur la guerre punique, puisque je suis antiquisante, c'est un sujet que je connais mieux, et qui met en scène à la fois les grands hommes, mais qui s'intéresse aussi de plus en plus à la vie quotidienne des soldats, sans pour autant quitter l'histoire très stratégie militaire. On voit bien les légions manipulaires romaines et les systèmes de stratégie que met en place Hannibal, etc. Et c'est vrai que ça m'arrive de dire à mes étudiants de lire un album ou un autre en leur disant bien que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des recherches historiques derrière, mais que ça permet de mettre des images dans la tête des étudiants qui sont ensuite très utiles à reprendre en cours.
Ah oui, mettre des images, justement, ce sera une des questions qui sera au centre de cette discussion, Victor Massé de Lépinay.
Oui, mais avant de parler de cette place des images, il faut peut-être se mettre d'accord sur l'objet de notre discussion aujourd'hui, bande dessinée historique, c'est ce qu'on a dit. Dans la préface de votre livre « Dessiner l'histoire », Adrien Genoudet, Pascal Horry fait une distinction entre bande dessinée historique et bande dessinée historienne. Est-ce que une bande dessinée historique, ce serait une bande dessinée dont le théâtre serait le passé avec un souci de vraisemblance? La bande dessinée historienne, ce serait une production de connaissances nouvelles par un nouveau médium qui serait la bande dessinée. Est-ce que cette distinction bande dessinée historique, bande dessinée historienne vous paraît importante à faire à tous les trois? Adrien Genoudet.
J'avoue que c'est une question que je trouve très compliquée, qui est encore très compliquée aujourd'hui. J'avoue ne pas non plus avoir la réponse toute faite directement, et c'est d'ailleurs pour ça que Pascal Horry a très bien posé la question. Il l'avait aussi posé la question lors de l'introduction de notre séminaire, les écritures visuelles de l'histoire, parce qu'il avait bien fallu, à un moment donné, se poser la question en effet de l'objet. La question de dire une bande dessinée historienne, ça serait dire à un moment donné qu'il y a eu derrière un travail qui est propre à celui de l'historien, c'est-à-dire tout un engagement de méthode, tout un engagement de source, qu'elle soit visuelle ou écrite, qui viendrait à un moment donné produire de l'image. Et ça, c'est ce qui va vraiment nous intéresser aujourd'hui. Une bande dessinée historique, je pense que si on peut penser ça d'une certaine manière, ça serait de dire qu'elle est une représentation d'une époque donnée par le dessin, et qu'il y a un engagement. Je crois qu'une bande dessinée historique, pour moi, c'est une mise en gage, c'est-à-dire avec le spectateur, avec le lecteur, et avec aussi le dessinateur. Il y a une idée de partager un jeu de croyances, qui est de dire que, eh bien, que ce soit le lecteur, que ce soit le dessinateur, à un moment donné, tout le monde y croit que on met en scène une période de l'histoire donnée.
Voilà. Oui, avec tout de même cette ambiguïté, Philippe Delisle, et vous la mentionniez dès l'ouverture de ce débat, que eh bien, l'histoire que l'on raconte, si elle se passe dans le passé, elle nous parle aussi du moment où elle est écrite et par ceux qui l'écrivent d'une certaine façon. Jigé, Charlier racontent une certaine histoire, ils avaient un certain engagement politique, les gens de Vaillant qui racontent la même histoire, donc venant du Parti communiste, racontent une autre histoire du passé.
Tout à fait. Les BD historiques anciennes sont aussi des sources pour les historiens. Là, donc, c'est une autre manière de les appréhender, d'appréhender ces images avec une conception de l'histoire, bon, très très héroïque, récit national, événementiel, etc. J'ai le sentiment que la rupture s'opère. Enfin, je suis pas le premier à le dire, ça n'a rien de très nouveau. La rupture s'opère dans les années 70-80, où il commence à y avoir des connexions beaucoup plus fortes entre histoire universitaire et bande dessinée. Auparavant, j'ai le sentiment que les auteurs de bande dessinée, comme Charlier, finalement sont plus dans des ouvrages grand public, sont plus en phase avec l'enseignement scolaire et ne sont pas très au fait de la recherche universitaire.
C'est l'histoire de l'oncle Paul dans Spirou,
voilà,
c'est
tout à fait. Effectivement. Et on voit d'ailleurs que c'est des histoires très biographiques et qui recourent essentiellement à des biographies à grand tirage. Et souvent, d'ailleurs, le choix de ces thèmes vient du succès d'une biographie. C'est parce qu'une biographie a eu du succès sur un auteur que ça va passer dans Spirou ou dans Tintin. À partir des années 70-80, on voit des auteurs de bande dessinée qui ont envie de connaître une période et qui vont entrer en connexion avec les chercheurs.
Pauline Ducret ?
Oui, Je pense en plus que maintenant il y a de plus en plus une, de la part même des auteurs et des dessinateurs de BD, une réflexion sur cette manière d'écrire l'histoire, et on voit notamment les liens très forts maintenant entre la BD reportage et la BD historique, avec parfois, je sais pas, je pense à des travaux comme ceux de Savoya, mais même pour l'histoire antique, Jean Arambat pour Ulysse, le chant du retour, qui a eu le prix de Château de Cheverny l'année dernière, où le scénariste-dessinateur se met en scène en train de faire ses recherches pour écrire sa bande dessinée historique. Et donc je pense que ça montre aussi un certain recul de ce qu'on sait très bien maintenant, que quand on écrit une BD historique, en fait on écrit beaucoup sur le présent.
Oui, alors on est très proche là aussi de ces mélanges de genres dont on parle souvent à la Fabrique de l'Histoire, entre romans, non-fiction, fiction, et comment les deux se mêlent. Yvan Jablonka d'ailleurs, oui, qui vient de publier, Laetitia, qui avait publié auparavant l'histoire des grands-parents, que je n'ai pas connu, a théorisé aussi ce rapport dans un article, c'était il y a trois ans, sur la vie des idées, entre histoire et bande dessinée, même si vous n'aimez pas la conjonction et, en l'occurrence, Adrien Genoudet, c'est l'histoire dans la bande dessinée, c'est la bande dessinée dans l'histoire, c'est le passé dans la bande dessinée dans l'histoire.
Si ça me gêne en soi, c'est que j'ai l'impression que lorsqu'on dit histoire et bande dessinée, encore une fois, justement, on oppose les deux et on les met. Alors, on essaye de les allier par plusieurs types de méthodes ou de discours, mais à mon avis, ce qui justement relie les deux, c'est la question du visuel, c'est la question de l'image à proprement parler. Et donc j'ai l'impression que quand on dit histoire et bande dessinée, on prend la bande dessinée d'un côté, on prend l'histoire de l'autre, et on essaye à la fois d'importer des idées d'histoire au sein de la bande dessinée, on essaye de les rechercher, ça j'aimerais bien qu'on en parle parce que c'est très intéressant, c'est le comportement des historiens face à la bande dessinée, les attentes des historiens face à la bande dessinée, et inversement, bien évidemment, il y a aussi ce côté de cette mise en scène de l'enquête, qui est de plus en plus intéressante au sein des bandes dessinées. Tu parlais de Savoya avec Les Esclaves oubliés de Tromelin, par exemple, qui est en effet très intéressant, au même titre que Jablonka avec Laetitia, avec ses ouvrages précédents, mais c'est pas le seul. L'idée de, tout d'un coup, de plus en plus mettre en gage aussi l'idée que le tout est une recherche. Voilà,
Philippe Delisle.
Ce qui est étonnant, je trouve, c'est que la bande dessinée a noué très tôt, francophone, franco-belge, des liens avec l'histoire. Dès le numéro zéro de Spirou, sont annoncées des rubriques historiques. Et on a très tôt des grandes biographies, alors héroïques, on disait, mais je pense là qu'ils ressortent d'une autre logique, qui est la logique de justifier un genre qui est considéré comme un sous-genre par les intellectuels, et donc de montrer qu'on va pouvoir aussi faire une BD éducative. Et ce qui est étonnant, c'est que ces premières BD historiques, finalement, on voit que les gens sont mal à l'aise avec l'image. Hergé, dans les années 50, dit à Yves Duval, qui s'occupe des scénarios, des histoires authentiques dans Tintin, dans les récits historiques, il faut beaucoup de textes, il faut des cases remplacées par du texte, il faut des fiches techniques, il faut que le lecteur fasse un effort. Comme si, dans ce genre de BD-là, l'image, finalement, devait être un petit peu un prétexte. Et sans doute que la grande différence, effectivement, que dans la bande dessinée historique moderne, on intègre parfaitement cette démarche, et là, l'image a son rôle plein.
Victor Massé-Lépine.
Oui, ces bandes dessinées historiques, ces premières bandes dessinées historiques dont vous parlez, on peut dire, pour dire assez rapidement, qu'en termes d'histoire, elles ne vont pas très loin, reprennent un peu souvent des poncifs, une histoire centrée sur les grands hommes, par exemple, vous l'avez dit, Philippe Delisle, et qu'en bande dessinée aussi, elles ne vont pas très loin, c'est-à-dire qu'elles n'explorent pas, elles ne créent pas un langage, elles sont souvent des didascalies, enfin très descriptives, avec c'est plus de l'histoire illustrée que de la bande dessinée, avec un langage propre, avec des séquences, avec une narration particulière.
Philippe Delisle.
Oui, ça a été une difficulté, visiblement, pour les scénaristes et les dessinateurs. Souvent, ça se déployait dans ce qu'on appelait des récits complets, c'est des formats courts en 4-5 pages, qui n'étaient souvent pas repris en album, et donc qui impliquaient des choix, et les auteurs se centraient sur quelques anecdotes. Alors, en même temps, en se centrant sur quelques anecdotes, on était dans un récit pittoresque, mais qui permettait des séquences d'images, quand même. Ce qui était sans doute un plus par rapport à des entreprises comme l'histoire en bande dessinée chez Larousse, où il y a une volonté là de vraiment tout raconter, et on a des cases qui ne s'enchaînent pas, ce qui est un peu la négation de la bande dessinée.
Oui, ce qui est tout de même intéressant, c'est qu'on fait rarement le lien, Pauline Ducret, entre cette histoire en bande dessinée ancienne manière, pourrait-on dire, telle qu'elle nous est décrite par Philippe Delisle, les années 50, etc., et toutes les façons dont on a raconté, non pas en bande dessinée, mais en dessin, l'histoire, c'est-à-dire ce lien entre les étiquettes de chocolat la Poulain et tout un tas d'autres moyens, Félix Potin qui faisait la même chose aussi dans les années de la fin du 19e siècle pour pouvoir raconter l'histoire, les grands hommes et leurs actions héroïques. Et donc cette première bande dessinée d'histoire qui nous est décrite dans les années 40, 50 par les dessinateurs de bande dessinée de Tintin ou plus tard de Spirou.
Et on ne fait pas souvent le lien, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien. Et je pense que c'est aussi toutes ces images, même à partir de la fin du 19e, toutes ces images, elles sont ancrées dans une sorte d'imaginaire collectif qui fait qu'en fait, consciemment ou inconsciemment, elles sont largement reprises. Elles sont, c'est les mêmes manières, les mêmes mises en scène, les mêmes plans, souvent la même manière de représenter des grands hommes qu'on va retrouver en fait jusqu'à aujourd'hui où peut-être il y a...
Victor Massé d'Épinay.
Oui, Michel Thébault, qui a écrit une thèse sur les représentations de l'Antiquité en bande dessinée, explique justement que les auteurs de bande dessinée ont repris finalement une représentation par les images de l'histoire qui était très présente au 19e, mais qui a été délaissée par les historiens au 20e siècle, au 19e, et beaucoup d'histoires du costume, d'histoires de choses comme ça, qui ont été la nourriture des auteurs de bande dessinée, mais que les auteurs de bande dessinée ont été les seuls finalement à continuer à produire des images du passé, alors que les historiens se sont centrés pendant très vite sur le texte et ont dit il faut écrire l'histoire et non plus la dessiner.
Oui, du coup, il y a peut-être, ça explique peut-être aussi la rupture pendant le fait que les historiens ont longtemps refusé de reconnaître la bande dessinée comme un vrai média pour raconter l'histoire. Notamment, je pense, pour l'Antiquité, la bande dessinée a repris énormément d'images et de pensifs qui sont
des péplums.
De peintres. Non, mais même de peintres, des grands peintres comme Jérôme, etc. Ouais. Que les historiens s'attachent au contraire à démonter critiquer. Petit à petit. On voit ça avec la gladiature et le fameux pouce qui servirait à dire si le gladiateur doit rester vivant ou non. Et peut-être que ça fait partie des raisons de cette sorte de divorce entre l'historien et la bande dessinée.
Philippe Delisle et puis Adrien Chaumet.
Je pense, sans empiéter ce que va dire Adrien, mais que là, il a lancé dans son livre ce concept d'effervescence des images qui est vraiment très intéressant et qu'il faudrait creuser pour les historiens. Sur la question de la colonisation et de l'esclavage, sur laquelle j'ai un petit peu travaillé, par exemple, on voit une vraie généalogie, une vraie filiation entre des images qui sont très diffusées dans le cadre de campagnes anti-esclavagistes au XVIIIe siècle, de gravures avec notamment le noir à genoux qui implore le blanc debout, donc à la fois généreuse et paternaliste, reprise au XIXe siècle dans le discours colonial belge et reprise telle qu'elle, dans des histoires de l'oncle Paul, sur Samanian de Braza, sur Stanley, sur ses héros coloniaux généreux.
Effervescence des images, qu'est-ce que vous entendez par là, dirait-on, Adrien Genodet?
L'idée de l'effervescence des images, qui demande encore à être développée, hein, ce que je ferai d'ailleurs dans mon travail de thèse, c'est l'idée principalement d'essayer de suivre une généalogie des appropriations, des réappropriations au cours du temps. C'est-à-dire que une image, évidemment, n'est jamais unique, elle n'est jamais non plus simplement à un moment donné du temps, elle est constamment reprise, réappropriée à travers d'autres discours, elle traverse des discours, des époques, etc.
Vous voulez dire qu'on le fait pour le texte et on ne le fait pas pour l'image, pas suffisamment selon
pas suffisamment,
vous,
pour l'image. Bien sûr, ça existe.
C'est fait par les historiens d'art, évidemment. Existe,
voilà, bien évidemment. Mais donc l'idée maintenant, c'est aussi peut-être d'aller voir ces étapes de réappropriation et voir peut-être potentiellement aussi, et c'est là où c'est extrêmement difficile, voir comment il peut y avoir une sorte de performance, d'agissement, d'influence de ce visuel diffus dans notre manière de considérer les imaginaires collectifs, de considérer l'écriture de l'histoire elle-même. Et là, il faut dire qu'on a besoin de s'armer théoriquement pour y arriver, parce qu'évidemment, on est dans de la psychologie un peu de la représentation, dans de la réception visuelle. Donc c'est très difficile d'aborder cette question-là.
France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
Et bien voilà, pour ceux qui ne seraient pas encore réveillés à 9h30 sur France Culture, ils le sont grâce à la bande originale de Prince Vaillant, donc une composition de Frank Waxman, une interprétation de Charles Guérard, donc le film tiré de la même bande dessinée, de bande dessinée éponyme Prince Vaillant, donc pour évoquer, puisque c'est le thème de cette émission du jour, donc la présence du passé dans la bande dessinée avec vous, entre autres, Victor Massé d'Épinay.
Oui, c'est bien qu'on entende Prince Vaillant. Je voulais aborder un exemple, parce que nos auditeurs ne connaissent peut-être pas tous les livres dont on a parlé depuis le début de cette émission. Prince Vaillant, qui est quand même assez connu, ou Alix, qui l'est peut-être encore plus pour l'Antiquité. Comment est-ce que, avec un exemple comme ça, rentre dans notre discussion? J'allais commencer par vous, Adrien Jounoudet. Est-ce qu'Alix, je veux pas reprendre cette distinction entre bande dessinée historique ou bande dessinée historienne, mais peut-être bande dessinée et histoire. Qu'est-ce qu'un historien fait avec Alix? Est-ce qu'il est là pour juger la vraisemblance, l'exactitude, ou est-ce qu'il y a autre chose qui est en jeu?
Alors, merci de poser cette question, parce qu'en effet, je crois que c'est une question centrale. Il y a deux choses. Premièrement, c'est vrai que sur Prince Vaillant, déjà, j'invite les auditeurs à lire les travaux de William Blanc, qui sont assez exceptionnels sur la question. Je crois qu'il y a plusieurs choses. C'est que premièrement, soit on se dit que quand on est face à une bande dessinée historique, on attend d'elle qu'elle nous représente et qu'elle nous donne à voir un passé, et que il doit être de toutes parts et de fait vraisemblable et véridique, ce qui, à mon sens, est une question impossible et qui est, à mon avis, pas la bonne question qu'on peut poser à une bande dessinée. Et ensuite, parce que c'est une production culturelle, parce que c'est une production artistique, donc elle met en gage, en branle, tout un travail artistique, tout un travail d'image prioritairement, mais aussi dans le second temps, par exemple, si on prend Alix, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces bandes dessinées? Je pense que, et c'est ce qu'on a proposé avec les écritures visuelles de l'histoire, avec Vincent Marie et Pierre-Laurent Dorès, la question était de se dire, prenons peut-être la question inverse, essayons de voir comment ça se construit, comment ça s'élabore. Essayons de dire que ce passé qui nous est donné à voir est une élaboration, est un passé composé, justement.
Rentrer dans la fabrique de la bande dessinée.
Voilà, et je crois que, quelque part, ça peut nous amener à retrouver notre travail d'historien, c'est-à-dire un travail de méthode, un travail d'élaboration en fait du savoir, et comprendre que cette construction-là est peut-être proprement notre matière.
Pauline Ducré.
Oui, pour revenir sur Alix, je pense que c'est un exemple très intéressant parce que ça, il y a encore des nouveaux numéros d'Alix qui sortent, que ce soit l'Alix classique ou Alix Senator.
Parce que Jacques Martin est mort, mais il a un successeur.
Voilà, il a des successeurs même. Et on voit une évolution très nette qui finalement suit, avec évidemment des décalages, un certain nombre de questions historiographiques. Et j'avais travaillé là-dessus pour un numéro de Case d'Histoire sur les images, sur la représentation de la ville de Rome dans Alix, qui apparaît régulièrement. Et alors les toutes premières représentations de Jacques Martin sont juste des évocations. Si on a la Louvre romaine du SPQR marquée partout et des grosses colonnes en marbre rose, c'est bon, ça suffit. Et après on voit un certain nombre, l'élaboration
du plan de Rome. Le plan
oui,
de Rome.
Exactement. En plus, c'est tiré du plan de Rome de Gismondi, qui est la maquette qui n'est plus visible, mais qui était au musée de la civilisation à Rome. Et après, de travaux comme les travaux de Gilles Chaillet sur la reconstitution de Rome. Et aujourd'hui, on essaye de s'en sortir. Les derniers Alix, et notamment Alix Senator, abandonnent cette image très figée d'une Rome de carton plâtre, d'une Rome de péplum, pour aller chercher plutôt dans les petites rues, dans la ville en construction, etc. Et en fait, tout ça rejoint clairement des travaux historiographiques, les grands travaux d'abord architecturaux, d'histoire de l'architecture, et aujourd'hui plus sur le phénomène de la construction, etc.
Philippe Delisle.
Oui, je pense qu'on peut pas faire l'impasse non plus sur le contexte de création, de production. On a une série, Alix, qui commence en 1948 et qui s'étale, Pauline vient de le dire, longtemps après, jusqu'aux années 70-80. Donc les options historiques ne sont pas les mêmes. Hein. À la fin des années 40, au cours des années 50, il y a derrière Alix, par exemple, une vision très classique avec des Gaulois qui sont des barbares, qui vont être civilisés par la glorieuse culture gréco-romaine. Et même des considérations au niveau de l'image, de la structure des planches. C'est-à-dire que quand Paraît Alix, on est dans des toutes petites cases au sein d'une planche qui sont toutes les mêmes. Et donc, par exemple, pour dessiner le décor, les auteurs sont assez limités. Après les années 60, il y a une explosion de la planche, des cases, la possibilité de très grands dessins, beaucoup plus documentés.
Oui, Pauline Ducret, vous avez un autre exemple à nous fournir, c'est la représentation des derniers jours de Pompéi ou du dernier jour de Pompéi en bande dessinée qui a évolué là aussi et on ne raconte pas de la même manière le dernier jour de Pompéi en bande dessinée dans les années 60 ou 70 et aujourd'hui.
Oui, j'avais pris cet exemple en travaillant à partir de la bande dessinée de Franck Santoro qui est sortie en 2013, qui s'appelle Seulement Pompéi, et qui en fait met complètement l'éruption en arrière-plan. On voit le volcan 2-3 fois dans la BD, mais toujours à travers une fenêtre. Et voilà. Et donc c'est plus le scénario catastrophe. Et là, je pense qu'il y a un autre lien qu'il faudrait creuser et qui est compliqué aussi, c'est le lien entre le cinéma et la bande dessinée. On sait que c'est deux genres qui se croisent beaucoup.
Qui se nourrissent l'un l'autre,
voire qui s'opposent. Et peut-être que, notamment pour la bande dessinée antique, on voit qu'elle part dans une direction extrêmement différente de celle du péplum aujourd'hui.
Oui, Franck Santoro dans Pompéi termine par une mise en abîme de la création. Il s'interroge sur ce qu'il est en train de faire, sur la façon de raconter. Là, on est complètement dans quelque chose de très différent du travail de Jacques Martin avec Alix, parce que peut-être que l'historiographie évolue et que Jacques Martin est au courant de ce qui se passe, et donc il va essayer de faire quelque chose de plus en plus vraisemblable, ou de plus en plus connecté à l'histoire en cours, mais on n'est pas du tout avec Jacques Martin dans un travail d'historien ou de quelqu'un qui interroge sa création.
Pauline Ducret.
Oui, mais alors, tout à fait. En fait, je pense qu'il y a aussi un autre point à prendre en compte, c'est l'arrivée d'Internet et donc la documentation qui est de plus en plus importante. Et donc, ils ont des documentations qui, pour le coup, dérivent directement ou indirectement de travaux universitaires, à partir desquels ils peuvent se nourrir, qu'il n'y avait pas, évidemment, au moment de la création d'Alix.
Adrien Genoudet dans Dessiner l'histoire pour une histoire visuelle avec une préface de Pascal Horry dans la collection Graphène d'édition Le Manuscrit. Vous dites que, en fait, pour bien comprendre, il faut s'approcher du processus créatif lui-même. En tant qu'historien, il faut être quasiment sur l'épaule et pourquoi pas avec le dessinateur en train de dessiner.
Oui, parce que je pense qu'on est en train de parler presque de quelque chose, on oublie presque la base qui est simplement qu'on est face à des personnes qui font advenir quelque chose qui est invisible, proprement, par essence, l'Antiquité ou une époque. C'est-à-dire une époque qui est non vue, qui n'est pas vue par les créateurs. Donc il y a obligatoirement, à un moment donné, la question de la recomposition. Il va falloir amasser tout un ensemble visuel pour faire réadvenir ce passé d'un point de vue visible. C'est intéressant parce que je retombais la dernière fois sur une des premières bandes dessinées de Gustave Doré. Il la publie là, il a 22 ans en 1854, qui s'intitule entièrement l'histoire pittoresque, dramatique et caricaturale de la Sainte-Russie. Et la première planche est assez symptomatique à ce niveau-là. Je trouve ça très très surprenant. Vous avez dans un premier temps une case noire, toute noire. Et juste à côté, une première case avec des premiers contours qui adviennent. Et l'idée de ce face-à-face de ces deux premières cases est de dire qu'on part du noir, justement. On part de l'invisible, on part de l'impossibilité de représenter aux premiers traits, aux premiers petits tracés qui vont venir petit à petit faire advenir un passé qu'il n'a pas vu. Et ce jeu-là, je pense que nous, on peut aller le récupérer quelque part, en effet, en se mettant côte à côte avec les créateurs, parce que en allant voir aussi sur la table à dessin, par exemple, il y a une exposition passionnante en ce moment aux Arts et Métiers qui s'appelle Machine à dessiner. C'est des deux auteurs, Benoît Peters et Françoise Cuyton. Et vous avez sa planche à dessiner dès l'entrée. Et sur cette planche, sur cette table à dessiner, pardon, vous avez les photographies, des photographies, la planche, etc. On voit tout le travail de réappropriation qui vient se condenser dans le dessin.
Philippe Delisle.
Oui, je pense qu'effectivement, c'est aussi une des difficultés, c'est cette collaboration éventuellement étroite entre le chercheur et le dessinateur qui est tenté dans la collection qu'ont lancé Glénat et Fayard de grandes biographies en bande dessinée, où il y a eu Philippe Lebel, Charlemagne. On a interviewé pour un volume collectif sur le Moyen-Âge, là, qui est dirigé par Tristan Martin, chez Cartala, les acteurs, éditeurs, dessinateurs, historiens.
Oui, Etienne Anaïm qui sera à notre micro pour autre chose demain, et justement, celui qui a collaboré au Philippe Lebel, en
voilà, tout à fait, c'est lui qui est interviewé. Et qui explique que l'idée, c'était qu'à toutes les étapes de la création, il contrôlait notamment le dessin, mais en même temps, il disait, le problème, c'est que je suis pas dessinateur, et par exemple, on m'a donné d'abord un storyboard, c'est-à-dire des choses dessinées de manière très, très lâche, et sur le storyboard, il y a des tas d'erreurs que j'ai pas vues. Et ensuite, quand les planches sont revenues terminées, je me suis dit, ah, mais là, tiens, j'avais pas vu que cet hôtel dans une église, il y avait une trappe, il doit pas y avoir de trappe, donc il faut redessiner les planches.
Oui, en même temps, est-ce que c'est à l'historien, Pauline Ducret, Adrien Genoudet, de vérifier le dessin? Parce que c'est un autre processus, le processus du dessin, à moins qu'on s'intéresse effectivement à la véracité ou au vraisemblable en histoire.
Mais alors, c'est peut-être là où les historiens ont quelque chose à apporter dans la création d'une bande dessinée et dans tous ces essais de coopération. C'est un essai de recherche d'effet du réel. L'intérêt, c'est pas qu'il y ait le bon buste du bon empereur dans la bonne salle, c'est qu'il y ait un buste qui ait l'air de marcher, qui ait l'air, qui rappelle au lecteur immédiatement.
Il y avait des bustes dans ces salles, par exemple.
Oui, non, mais ou bien alors qui rappelle, voilà, une époque impériale un peu générale, deuxième siècle après Jésus-Christ, on se moque exactement de qui est l'empereur. Ça
peut être... et c'est vraiment ça la question.
Enfin, personnellement, je peux pas réussir à répondre en disant que je pense que c'est le rôle des historiens de savoir s'il y a une trappe ou pas ici sur le dessin. Enfin, à mon sens, je pense pas, et je crois encore une fois, il faut peut-être un peu retourner la question et aller dans l'idée de qu'est-ce que, à nouveau, les historiens attendent tout d'un coup du dessin. Comment ça se fait qu'on soit dans cette position d'attente du point de vue, vis-à-vis des dessinateurs, vis-à-vis, bon, des éditeurs, vis-à-vis des collections, qui est qu'à un moment donné, certains mais, attendent cette position de, il faut à tout prix qu'ici il y ait le bon fusil, qu'il y ait le bon casque,
mais c'est aussi ce que demandent les cinéastes quand ils prennent un conseiller historique pour pouvoir savoir si c'est le bon fusil ou le bon casque. Donc, tout compte fait, c'est toujours la question de l'image qui est en question.
Je pense que c'est toujours la question de l'image. Et c'est pour ça qu'elle est liée à la question aussi de l'historien. Et c'est là où je réalisais aussi derrière moi l'ouvrage de François Hartog, que je trouve vraiment très intéressant à ce niveau-là, qui s'appelle Évidence de l'histoire. Mmh. Et on oublie souvent le sous-titre qui est dit, c'est Ce que voient les historiens. Où il revient sur l'idée d'historia et le lien entre le voir et le savoir, et qu'il y a toujours eu cette idée de donner à voir chez l'historien, qui est toujours aussi lié à son manque de visibilité, son manque de données à voir, justement, parce que il va écrire par le texte, il va travailler par le texte, etc. Donc il y a toujours un peu une carence du visible chez l'historien. Et c'est vrai qu'on projette peut-être souvent dans les productions artistiques, cette volonté que, au même titre, les dessinateurs, les cinéastes, etc., se mettent à leur tour à donner du vraisemblable ou à donner du véridique.
Victor Massel-Lépinet.
Oui, il y a les auteurs, dessinateurs, on a parlé de Santoro, on pourrait parler de Davodeau dans un autre genre, qui font eux-mêmes leur bande dessinée. Mais dans le cadre d'une collaboration entre un historien et un dessinateur, qu'est-ce que ça peut être d'autre, Adrien Genoudet, la collaboration, la coopération entre ces deux-là, qu'avoir un historien qui, quelque part, valide, cautionne, donne un imprimatur scientifique et historique au dessin. Est-ce qu'on peut imaginer autre chose? Comment, est-ce que peut-être vous avez des exemples de bandes dessinées écrites en collaboration entre un dessinateur et un historien où il se passe autre chose qu'avoir un dessinateur et un historien qui est par-dessus son épaule pour vérifier?
Moi, j'attends avec beaucoup d'impatience la publication de Sylvain Venère et Étienne Davodeau. Parce que
cette histoire dessinée de la France qui commencera donc en collaboration entre la revue dessinée qui, rappelons-le, fait un gros travail dans ce domaine-là, justement, de mettre en image le passé en particulier, souvent.
Et surtout le présent, parce qu'on est dans une bande dessinée de reportage prioritairement.
Et donc, cette revue dessinée, et la découverte, ça sera en septembre 2017, oui.
Et quand je vois les premières planches, j'ai l'impression que, justement, on est dans une collaboration qui, dès le départ, d'ailleurs, est mise en scène, qui, dès le départ, est mise en dessin, et l'idée que, on interroge dès le départ l'idée de la représentation, l'idée qu'il va falloir passer le cap du dessin, qu'il va falloir passer le cap de raconter une histoire qui, elle aussi, de fait, est complexe et pleine de traversées, de discours, de pensées, d'images. Voilà, je pense que...
Philippe Delisle et Pauline Ducret.
Oui, j'aurais tendance à penser, la collection Glénat dont on parlait, c'est les impératifs qu'ont adopté l'éditeur de la collection, mais j'aurais tendance à penser, notamment pour les thèmes qui m'intéressent, la colonisation, l'esclavage, que François Bourgeon et que Les Passagers du Vent a vraiment réussi une BD qui, sans être historienne au niveau académique, est une BD qui permet de voir la mémoire de l'esclavage, et qu'on utilise d'ailleurs très bien en cours, que ce soit à l'université ou dans le secondaire. Et là, c'était une collaboration où il était très lié aux universitaires parce qu'il entretenait une correspondance, il lisait les travaux récents, mais en même temps, c'était lui qui après décidait, reconstituait, réaménageait éventuellement, sans effectivement un historien qui part sur son épaule lui disait non, là ce détail n'est pas bon.
Mm-hmm. Pauline Ducret.
Et je me demande si là on n'oublie pas un troisième acteur qui est l'éditeur et qui a parfois un rôle extrêmement important.
Parce que c'est lui qui décide des collections par exemple.
Voilà, c'est lui qui décide des collections et on avait réfléchi à partir de la BD, enfin de la série Jour J de Fred Duval notamment, qui était là à notre journée d'études. Et
une journée d'études que vous avez tenue, c'était au Mémorial de la Shoah en septembre dernier. On aura d'ailleurs, j'imagine, les actes un jour.
Oui, on aura sûrement plutôt un dossier dans une revue spécialisée. Voilà. Et qui nous a justement ramené, nous les historiens, à cette réalité, qui est une réalité éditoriale et économique. On a essayé de travailler à partir d'aujourd'hui, de réfléchir, c'est Florian Besson qui avait fait une communication là-dessus, sur quels sont les moments historiques qu'il a choisi de représenter, quels sont les grands hommes qu'il a choisi de représenter. Et Fred Nuval nous a rappelé que, avant tout, c'est aussi une question de vente. Et si l'histoire contemporaine est surreprésentée, c'est parce que c'est aussi les albums qui se vendent le mieux et qui sont le plus faciles à écluser.
Dans cet article de La vie des idées dont on a déjà parlé tout à l'heure, Adrien Genoudet, qui était signé Yvan Jablonka, c'était en 2014, il disait « les temps sont mûrs ». Les temps sont mûrs, écrivait Yvan Jablonka, pour que BD et sciences sociales fassent équipe. Ça serait quoi faire équipe entre BD et sciences sociales? Est-ce que c'est justement ce que vous disiez à l'instant même, c'est-à-dire ce qu'on attend de cette collection, la revue dessinée, la découverte de l'histoire dessinée de la France, entre des historiens, un historien pour chacun des volumes, il y en aura 20, et de l'autre côté un dessinateur? Est-ce que c'est ça, faire équipe?
Dans ce même article, il donne un peu la réponse, étant donné qu'il finit par dire qu'il faudrait que les historiens dessinent. Il le dit clairement. L'idée, vraiment, c'est que les historiens passent le cap du dessin. Ce qui est en effet une très bonne idée. Bon, après, on est très nombreux à être très mauvais dessinateurs, donc la question se pose évidemment de collaborer.
Enfin, en même temps, vous pouvez faire comme Lewis Trondheim, c'est-à-dire commencer en sachant pas dessiner et devenir une des grandes stars de la bande dessinée contemporaine.
Mais je pense que, en même temps, là où il a raison quelque part, et là où il l'a très bien montré aussi dans ses autres travaux, c'est que c'est peut-être moins la question de la collaboration avec un artiste, que peut-être aussi endosser ce rôle d'artiste, endosser ce rôle de travail artistique qui est au cœur même du travail de l'historien. Donc peut-être que c'est quelque part une part de nous qu'on doit changer pour aborder cette question de la
représentation des images du passé.
Oui.
Philippe Delisle.
Oui, c'est presque un amusement, mais il se trouve que je dessine un petit peu sans être vergé, et que pour un des volumes de la collection qu'on a co-dirigé avec Eric Baratet sur le chien en bande dessinée, qui est une histoire de l'animal et des relations entre image d'animal en bande dessinée, image d'animal réel. Et
Eric Baratet, était historien justement des animaux.
Tout à fait. On a opté pour une conclusion en bande dessinée, qu'Eric a scénarisée et que j'ai dessinée, car Tala a accepté. Alors, ça ne restera pas, je pense, dans les annales de la bande dessinée, mais c'était l'idée d'innover un petit peu.
Pauline Ducret.
Et c'est des choses qui se font peut-être déjà un peu, notamment en histoire de l'architecture, et je pense aux travaux de Jean-Claude Gauvin, qui est un architecte et un historien, un chercheur au CNRS. Et je sais qu'il est en train d'écrire une bande dessinée. Je sais, j'ai pas du tout vu de planche, ni je ne sais pas où ça se passe, ni quelle est l'histoire. Mais voilà, ce sera une belle question de voir qu'est-ce que ça donne quand quelqu'un qui dessine bien et qui est historien fait de lui-même une bande dessinée.
Donne à voir, justement.
Donne à voir ses travaux.
Victor Massé de Lépinay.
Est-ce qu'il y a des faits historiques ou des sensibilités historiques ou des choses que l'historien peut étudier qui ne peuvent être représentées qu'en bande dessinée? Est-ce qu'il s'agit de dire que la bande dessinée permet de dire quelque chose, de faire de l'histoire autrement que simplement en écrivant? Est-ce que cette histoire visuelle ouvre des nouveaux champs possibles?
Ben, il me semble que justement l'album qu'est en train de préparer Monsieur Golvin est part d'un de ses problèmes, qui lui fait des restitutions de villes, notamment de villes gallo-romaines pour certains de ses ouvrages. Et il a des villes qu'on ne peut pas restituer parce qu'on a trop d'inconnus. Et que le travail, ce serait plus du travail universitaire. Bien sûr, on comble toujours avec du vraisemblable, mais là, il y a certaines villes qu'il est incapable de restituer. Et donc, c'était aussi pour combler ce trou qu'il aurait décidé de faire cette BD et de pouvoir prendre la liberté de faire des choses qui soient réalistes, mais sur lesquelles on n'a pas de réelles connaissances avancées.
Adrien Genoudet.
C'est une question que je trouve très compliquée et en même temps qui est en effet au cœur de notre interrogation. Je pense que il y a quelque chose qui est important à noter, qui est que cette recomposition, c'est-à-dire tous ces trous en effet qui sont en fait au cœur même du travail de l'historien, c'est-à-dire qu'on passe notre vie de toute façon à lire, on le sait bien, beaucoup d'historiens ont écrit sur cette question, à écrire à partir du vide, à partir de plein de choses qui nous manquent. Donc on fait aussi que combler du vide, on fait aussi que combler les trous par le plus possible, essayer le plus possible évidemment d'approcher la vérité quelque part de ces trous qui nous restent, mais quelque part en même temps, je pense qu'on a la possibilité de nous concentrer sur ce qui est là et y aller à fond. Je crois que beaucoup d'ailleurs
qu'est-ce que vous avez comme idée comme ça par exemple, ce qui est là, c'est quoi pour vous
en bande dessinée?
Ouais,
je pense qu'il y a il y a un très très bon reportage en ce moment, un très très bon documentaire de Vincent Marie qui s'appelle Là où poussent les coquelicots, qui passe en ce moment sur la télévision, enfin France Télévisions. Et c'est très intéressant parce qu'on voit que c'est ça. C'est-à-dire que quand on prend Tardi, quand on prend des auteurs comme Joe Sacco, quand on prend ces auteurs-là, ils passent leur temps
à la base, à étaler sur leur table à dessin, sur leur travail, tout ce qu'ils ont, tout ce qui est là, c'est-à-dire toutes les images.
Pour faire la Première Guerre mondiale.
Par exemple, pour recomposer la Première Guerre mondiale. Et à partir de là, il y a tout un travail de recomposition que l'on peut nous démêler en tant qu'historiens, mais où on voit aussi que les trous finalement sont assez minces au moment donné où on passe le cap de l'image, car il y a beaucoup d'éléments qui nous permettent de recomposer cet espace visuel.
Philippe Delisle.
Oui, pour répondre à ce que vous disiez, je pense qu'effectivement, par moments, la mise en dessin peut poser des questions que l'historien ne se pose pas naturellement. Bourgeon explique, par exemple, que pour la traite négrière, il collaborait avec des spécialistes de la marine, mais que lui, dans sa bande dessinée, il fallait qu'il fasse vivre des gens à l'intérieur des bateaux. Et que ça, le problème de comment on se tient, par exemple, dans un bateau qui est très peu haut, comment on déambule dans des coursives très étroites, c'était des questions que l'historien ne s'était pas posées. Et lui doit le faire pour la mettre en dessin.
Parce qu'il faut mettre en dessin des corps. Ouais, ne serait-ce que ça. C'est-à-dire représenter des corps dans un espace, ce qui est important.
Oui, il y a d'ailleurs dans ce même documentaire de Vincent Marie, il y a un moment, Joe Sacco explique, et je trouve ça vraiment très beau, il explique donc sur cette grande fresque qu'il a fait de la bataille de la Somme, il explique qu'à chaque moment où il redessinait un personnage, il cherchait à revivre la présence de ce personnage-là, son histoire, etc. Donc il y a une histoire aussi évidemment des émotions, d'ailleurs on en parle beaucoup en ce moment, il y a une histoire des mentalités qui peuvent passer tout simplement à travers un trait, au moment où le dessinateur s'y met.
Oui, part. Joe Sacco, donc celui qui avait fait Gaza 56 et dont Yvon Jablonka dit qu'il est à la fois enquêteur, reporter, dessinateur, historien, et donc qu'il s'intéresse aussi aux marges de l'histoire, il a une conception marginaliste de l'histoire, il faut voir, c'est à Thiepval, au grand mémorial de Thiepval dans la Somme, justement, où on peut voir justement cette grande fresque qu'il a composée autour de la bataille de la Somme. On parlera de la bataille de la Somme dans deux semaines dans la Fabrique de l'Histoire. Victor Massel-Lépiné.
Oui, on a peu parlé de la force d'impact des images qui est quand même quelque chose de central dans notre discussion, puisque pour la Première Guerre mondiale, on a beaucoup de photos. Tardy étale sa documentation. Pour le Moyen-Âge, on en a évidemment beaucoup moins. Et dessiner quelque chose, je crois que c'est justement dans le livre Étienne Anaïm, dans le livre sur le Moyen-Âge en bande dessinée, qui explique dans cet entretien que dessiner une cathédrale en construction, c'est quelque chose dont évidemment on n'a pas d'image, mais qui a un impact incroyable quand on le voit. On pourrait le décrire sur plusieurs pages, mais de voir que à un moment la cathédrale de Reims n'était pas achevée, enfin c'est pas un moment, c'est pendant très longtemps elle n'était pas achevée, il y avait un chantier gigantesque. C'est une image qui frappe et qui fait histoire, en fait.
Philippe Delisle.
Tout à fait. Et il explique d'ailleurs, effectivement, que c'est le choix de la montrer en construction et l'échafaudage pour produire un effet sur le lecteur. Et où là, l'historien, d'ailleurs, à propos d'autres aspects, le dit, parfois, on ne sait pas. C'est-à-dire, par exemple, pour une assemblée médiévale à l'époque de Philippe le Bel, on sait que les gens étaient dehors, mais on ne sait pas s'ils étaient assis sous les tentes, sous les arbres. Et du coup, il y a un moment, il faut prendre parti. Et du coup, le dessinateur va au-delà de ce que c'est l'historien, de ce que c'est l'historien pour essayer de rendre une espèce d'ambiance.
Pauline Ducret.
Oui, sur la construction, c'est quelque chose qui me touche parce que c'est le sujet de ma thèse qui n'est pas lié du tout à la bande dessinée, qui est beaucoup plus classique. Et je me rends compte.
Qui est quoi?
Je travaille sur le monde du bâtiment, vraiment le monde du BTP à Rome à l'époque républicaine. et c'est quelque chose qui me touche parce
avec Bouygues Six.
On n'a pas les noms des grands entrepreneurs, mais c'est un peu ça ressemble quand même beaucoup à ce qui se passe aujourd'hui sur certains points. Et justement, cet impact des images, il y a quelque chose que, si je savais dessiner, j'aimerais reconstituer un chantier et montrer, parce que je pense qu'il y a tout... Bon, après, l'image ne donne pas le bruit, mais il doit y avoir tous les mouvements, tout le fourmillement, ou au contraire, les matériaux qui traînent, etc., et qui sont des choses qu'en écrivant, on n'arrive jamais à rendre comme un dessinateur peut le faire ensuite.
Oui, c'est, tout de même, on voit bien, Adrien Genoudet, dans notre discussion, qu'il y a là... Le côté démiurgique de l'historien, il y a tout un tas de choses qui lui échappent, les sons, les odeurs et les images, quand elles n'ont pas été produites au moment donné. Donc on voit bien qu'il y a là derrière les travaux d'Arlette Farge sur les cris, sur les sons du XVIIIe siècle, ceux d'Alain Corbin sur les cloches de la terre ou sur les odeurs, etc. Et qu'il y a là comme quelque chose qui, dans votre génération, en tout cas de jeunes historiens et historiennes, vous ennuie ou au contraire vous excite profondément, c'est-à-dire de rendre cette part de vérité que le texte ne rend pas, parce que simplement le texte il est aveugle souvent, même si Arlette Farge tente de le faire sonner d'une certaine façon, et il n'a pas les odeurs avec lui.
Je ne sais pas si c'est rendre cette part de vérité, mais c'est en tout cas, c'est vrai qu'on est...
Cette part du passé, en tout cas.
Oui, on est de cette culture du passé, qui était le titre d'un numéro du débat il n'y a pas si longtemps. C'est en effet un enjeu, je crois, qu'on ressent peut-être de plus en plus, qui est tout simplement qu'on se rend compte que on est aussi rentré de manière passionnée dans la matière historique, bien souvent par des mises en scène, par des enjeux de mise en scène, par la bande dessinée, par le cinéma, mais aussi par tout ce qui est de la scénographie dans les musées. De plus en plus, c'est vrai que, et je crois que le public aussi, de plus en plus passe prioritairement maintenant par ce travail de réception visuelle, sonore, etc. D'ailleurs, les musées de plus en plus reconstituent aussi hein, les sons. C'est très intéressant de voir ça. Il y a donc un enjeu, je pense, qu'on ressent historiographiquement, qui est de dire qu'on se doit de le prendre en compte et de le prendre de plus en plus à bras-le-corps.
Philippe Delisle. Oui, puisqu'on a évoqué les sons, je pense qu'on peut aussi noter que, même si la recherche française sur la théorie de la bande dessinée a beaucoup mis l'accent sur les séquences d'images, d'autres recherches dans d'autres pays, comme en Italie ou en Belgique, s'intéressent aussi au dialogue, et qu'effectivement, une des questions qui se pose à l'historien, c'est aussi comment faire parler les gens. Alors, à l'époque médiévale, est-ce qu'on utilise le français actuel, le style troubadour, ou on reconstitue un français ancien? Mais même pour des périodes récentes, comment faire parler des acteurs du 19e siècle, suivant les catégories sociales, comment faire parler des gens de pays différents? Est-ce qu'on traduit dans Atargul, par exemple, les auteurs ont fait parler le roi du Bénin, le roi du Dahomey, en béninois moderne, alors que l'action est située au 19e siècle, pour ne pas le faire parler en français?
Oui,
c'est un artifice. Est-ce que c'est totalement satisfaisant? Sans doute pas.
Quelle place pour les accents, par exemple? Oui. Ne serait-ce que ça, effectivement, les accents qu'on pouvait avoir, ne serait-ce que jusque dans les années 30 ou 40 du 20e siècle, Pauline Ducret?
Je pense que là-dessus aussi, souvent les chercheurs sont aussi enseignants et c'est aussi une question qu'on se pose, c'est les représentations que nous avons, nous, quand nous faisons une recherche, mais surtout celles de nos élèves. Et c'est vrai que la bande dessinée et évidemment le cinéma sont en général les acquis qu'ils ont déjà et qu'il faut qu'on connaisse pour ensuite travailler avec eux.
Allez, on a beaucoup parlé de ça, de ce qui était bien et moins bien. Si on vous demandait à chacun... un ouvrage de bande dessinée que vous conseillez pour ceux qui s'intéressent à cette question-là et avec les préoccupations qui sont les vôtres. Adrien Genoudet.
Moi, sans hésiter, parce que je l'ai relu il n'y a pas longtemps aussi, mais je conseille vraiment La vision de Bacchus de Jean Dittard, qui est, je trouve, un chef-d'œuvre en la matière. Oui.
Philippe Delisle.
Sans hésiter, Les passagers du vent, que j'ai cité abondamment.
Moi, je vais peut-être citer Stupor Mundi, qui est sorti récemment, qui est à la fois très beau et justement pas réaliste dans le dessin. Il n'y a pas de recherche de reconstruire toute une ambiance et pourtant, elle dit quelque chose sur le Moyen-Âge.
Sur le Moyen-Âge, formidable bande dessinée de Nejib. Et il fallait oser pour la bande dessinée, ou plutôt le dessin animé tiré de la bande dessinée Astérix, le domaine des dieux, les Swingle Singsters, reprenant donc en l'occurrence du Bach. Et je citerai cette phrase d'Yvan Jablanca dans l'article dont on a abondamment parlé. Ce n'est pas parce que les BD convoquent les Templiers et Cléopâtre qu'elles font comprendre le passé. Ou alors France Gall avec Sacré Charlemagne et médiéviste. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marcet et Francesca Fossati. À la technique avec nous, Dofar Guérid, et à la réalisation, Séverine Cassar. Si vous voulez réagir à cette émission et toutes les autres, vous avez beaucoup réagi autour de la bande dessinée, en particulier autour du documentaire de mardi sur Pilote. N'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr, discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse c'est Fabrique FC. Demain, nous vous parlerons d'actualité comme tous les vendredis et nous parlerons du dossier qui vient tout juste de sortir aujourd'hui en kiosque sur l'histoire des Kurdes dans le magazine L'Histoire.